Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Je ne sais pas si vous êtes de la même tranche que moi, mais le culte ne se prépare pas le dimanche matin, juste 5 minutes avant d'arriver, mais on prépare ça pendant la semaine. Pour ainsi dire, on se conditionne un peu pour savoir ce que Dieu veut de nous. Et on sait ce qu'il veut de nous. Il veut notre bénédiction, il veut notre sainteté, il veut que nous soyons mis à part pour son service. Alors, je suis toujours en train de faire travailler mes ménages, et chaque fois que je vois des textes dans des chants ou quoi, ça me rappelle toujours des petites histoires. Et tout à l'heure, on a chanté le psaume 23, paraphrasé, et je me suis reprojeté, vous savez que vous connaissez mon affection pour Israël, mais je me suis un peu replongé dans les endroits que j'ai vus, et je me suis rappelé, donc c'était pas d'aujourd'hui, hein, je me suis rappelé quelques fois, que quand David dit « quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Eh bien, je me suis renseigné via Internet. Maintenant, on a beaucoup plus facile. Hein. Il suffit d'aller sur Google ou quoi, et Wikipédia, et on voit les explications de certains endroits. Et je me suis aperçu que je suis allé plusieurs fois dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et que j'ai, avec mes groupes, hein, les groupes avec lesquels je suis passé, qu'on a traversé une partie de cette vallée. Alors, je vais donner, pour ceux qui sont déjà venus en Israël, c'est quand il y a le tombeau d'Absalom, dans le Cédron, hein, on descend, il y a la cité de David, donc avec les remparts des palais, et David pouvait voir cette vallée du Cédron qui descend et qui descend jusque bien bas, vers la vallée de la mer morte. Et un jour, soir plutôt, j'étais allé seul en Israël, et je me suis promené du côté de cette vallée-là. Et il se fait qu'en Israël, quand il n'y a pas qu'en Israël, dans tous les pays de méditerranéens, dès qu'il commence à faire noir, eh bien, c'est comme le rideau qui tombe, paf, hein, vous êtes dans l'obscurité sans que vous ayez vu quelque chose. Et je me rappelle que je suis allé avec un jeune qui avait voulu me montrer certaines choses dans la vallée des tombeaux. Et je me suis dit, mais quand David a écrit son psaume, il n'y avait pas de lumière. Dans cette vallée, on a mis quelques lumerottes pour que les gens puissent voir un peu. Mais ce n'est pas des phares, donc c'est juste un petit peu pour éclairer le chemin. Et quand on commence à marcher dans cette vallée et que le soleil se couche, eh bien vous avez l'ombre qui vous prend directement et vous êtes plongé dans l'obscurité la plus noire. Et David se rappelle que quand il était berger, il a peut-être traversé cette vallée de l'ombre de la mort. Et peut-être que même en étant roi, il a peut-être refait ce chemin. Tout ça pour dire que l'Éternel était et est son berger. Il est notre berger. Nous l'avons chanté à plusieurs reprises. Nous avons lu que Dieu est notre Père. Et mon propos ici, c'est de parler du psaume 131. C'est un psaume que je raffole, que je me suis accaparé, que j'ai fait mien, parce que ça correspond bien à ce que je veux vivre. Et par là même, je veux partager ce que David a pu partager. Donc, David est un homme de la même nature que moi. Hein. Donc, on peut avoir ses sentiments. Mais je voulais commencer parce que je commençais par le psaume 130, puisque le psaume 130 et 131 vont de pair. Et alors, vous allez comprendre un peu pourquoi. Le psaume 130 commence comme ceci. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et maintenant le psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Alors ma prière en prenant ce psaume 131, c'était que on puisse ouvrir notre cœur et que nous puissions faire nôtre ce psaume. Que je vous recommande de lire de temps en temps pour remettre un petit peu le diapason au même niveau que celui que Dieu veut que nous soyons, que nous ayons. Les psaumes des degrés, il y en a plusieurs, et il commence au psaume 120 jusqu'au psaume 134. Il est chaque fois inscrit « Psaume cantique des degrés ». Alors, des degrés, ce n'est pas les degrés de température. Ça ne veut pas dire que ce sont des cantiques qu'on doit lire ou chanter quand il fait chaud. Non, les degrés, ce sont des escaliers qui montaient vers le temple. Et avec, encore une fois, avec les groupes, quand je suis à Jérusalem, on va voir ces degrés qui ont été découverts il y a quelques années. Les archéologues ont mis à jour une série d'escaliers, et ce n'est pas des escaliers qui mesurent 3-4 mètres, ce sont des escaliers assez longs. Et les choristes du temple se mettaient tout autour et il pouvait y avoir des centaines de choristes qui chantaient les louanges de l'Éternel. Donc les pèlerins montaient ces escaliers, donc ces degrés, sous les chants des choristes du temple. Alors, ça c'était pour expliquer ce qui étaient les degrés. D'ailleurs, c'est même impressionnant parce que quand on est là et qu'on lit un psaume des degrés, ça prend tout un autre sens parce que vous êtes vraiment à l'endroit où on chantait, puisque les psaumes, ce sont c'est un recueil de chants et aussi un recueil de prières. Alors, voilà, c'est David qui dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. » Comme je l'ai dit, j'ai essayé de m'accaparer ce psaume et de faire en sorte que chaque mot, chaque phrase puisse être avoir un écho dans mon cœur, dans ma vie. Alors, avoir un cœur qui s'enfle, ça veut dire un cœur qui devient orgueilleux. L'orgueil, c'est quelque chose qui dépasse la normalité de notre vie. Quand on est orgueilleux, c'est que on veut prendre le pas sur certaines choses et qu'on veut maîtriser les choses qui nous entourent et même les choses auxquelles on veut s'occuper. David ne voulait pas que son cœur soit enflé, enflé d'orgueil, enflé de choses autres que ce que Dieu voulait qu'il ait dans son cœur. Donc, il voulait avoir un cœur humble. Et comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, Philippiens, excusez-moi, donc que votre humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si nous sommes humbles, nous n'avons pas un cœur qui s'élève, qui s'enfle. Et David dit aussi, je n'ai ni des regards hautains. Ça veut dire que quand on regarde notre prochain, quand on regarde les autres, est-ce qu'on les voit comme des petits et nous autosuffisants? Ça veut dire que nous devons toujours faire attention à ce que notre équilibre spirituel, notre équilibre émotionnel soit toujours en contrôle avec le Seigneur. Dans le psaume 130, il est écrit « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » On doit toujours être en contact avec le Seigneur. Le matin, quand je sors du lit, la première chose que je fais, bon, c'est pas de l'orgueil ici, je raconte juste ce que je fais, je me mets en communion avec le Seigneur et je le remercie pour la nuit, pour la journée, pour un tas de choses. Et puis, je me dis, avant de dire « Amen », parce que le « Amen », ça veut dire « Oui, Seigneur, c'est comme ça hein ». Je dis « Seigneur, mais tu sais que ma prière, maintenant, elle continue dans mes agissements de la journée. Toute la journée, j'essaye de vivre avec ce que le Seigneur me donne. Je ne veux pas avoir un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain, mais je veux être au service du Seigneur. » Le psalmiste David dit « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Alors là, chacun, nous ne sommes pas le roi David, parce que lui, il avait des choses assez grandes à contrôler, il avait tous ses sujets, il avait tout le peuple à servir, mais ça veut dire qu'il était le serviteur de son peuple. Il était celui qui était là pour gérer les affaires courantes et aussi les affaires de son cœur. Parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Et rappelez-vous que tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand on parle de David, on dit « c'était l'homme selon le cœur de Dieu ». Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu ? Est-ce que nous voulons être à la disposition de Dieu ? Est-ce que Dieu peut vraiment nous utiliser pour faire et pour dire des choses de sa part ? Alors, ne prenons pas des choses trop relevées, mais voyons avec le Seigneur jusqu'où nous pouvons aller dans nos agissements et dans les choses pour lesquelles nous voulons nous occuper. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse s'asseoir et, comme disait Jésus, calculer la dépense. Voir jusqu'où nous pouvons aller dans nos affaires, dans nos relations avec les autres et surtout jusqu'où nous pouvons nous engager avec nos frères et nos sœurs. David continue et il dit « Loin de là, après ne pas s'être occupé de choses trop relevées pour moi, il dit « j'ai le cœur, j'ai l'âme, calme et tranquille. » La tranquillité est quelque chose qui doit nous donner envie ou donner envie aux autres de calquer sur nous si nous avons un cœur calme et tranquille. Le calme, tout le monde sait ce que c'est le calme, hein? C'est quand il n'y a pas trop de bruit, on est dans le calme, et Ésaïe dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Donc c'est là qu'on peut puiser notre ressource du calme. Et quand on est tranquille, eh bien, on n'est pas agité. On n'est pas agité par toutes sortes de choses. Et en même temps, si nous avons trop de souffrances, si nous sommes trop agités par la mer qui nous entoure, hein, nous sommes dans une barque et nous sommes agités, nous ne sommes pas dans la tranquillité, prenons le conseil de l'apôtre Pierre qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Et je crois que c'est quelque chose de grand quand on peut se décharger au fur et à mesure de nos problèmes sur le Seigneur. Et ça me remet encore dans le psaume 130, parce qu'il dit au verset 4, « Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » La crainte ici, c'est un respect profond qu'on doit avoir pour Dieu, de peur de l'offenser. Il y en a qui n'ont pas peur d'offenser Dieu. Hein. Il y a, si vous écoutez des fois autour de vous des gens qui blasphèment Dieu, ils n'ont pas de crainte de Dieu, sinon ils ne blasphémeraient pas le nom divin. Hein. Dans ma voiture, j'ai ça s'appelle une Messouza que j'ai ramenée d'Israël, et il est écrit en hébreu Shaddai. Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'aime bien d'avoir les yeux là, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et je remercie mon frère d'avoir rendu témoignage, hein, mon frère Ben, d'avoir rendu témoignage de la fidélité, de la puissance de Dieu. Si on n'avait pas un Dieu puissant, il y a des choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ferait. Donc Dieu veut être un frein dans notre vie. Il veut que nous apprenions à dépendre de lui. Et alors David donne un exemple, ici dans le psaume 131. Il dit qu'il a le cœur calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Alors, si vous voulez voir un enfant calme, c'est quand l'enfant est au sein de sa mère, hein, qu'il est en train de téter. Eh bien là, il peut avoir pleuré beaucoup. Quand il est là, il est tranquille. Il est calme. Vous pouvez le regarder. Et lui, il ne regarde personne autour de lui. Il a les yeux fermés. Et il est en train de s'abreuver, de se nourrir d'une façon puissante, hein, que des fois même la maman peut avoir mal au sein parce que il y a trop c'est un gros tirelet. Hein, hein. L'enfant ne s'en aperçoit pas, mais la maman bien. Hein. Bon, je suis pas une maman, mais j'ai vu mes enfants prendre le sein, et c'est la joie, la tranquillité, le calme. Et après avoir mangé, l'enfant, et on peut le mettre dormir. Mais il y a cette dépendance. Tant que l'enfant tête, hein, qu'il est nourri au sein, eh bien, il n'y a pas de séparation entre la maman et l'enfant. Donc, c'est une... je ne vais pas dire un esclavage, mais il est obligé, et la maman est obligée de lui donner, parce qu'il n'a que ça comme nourriture. Donc le sevrage, c'est la coupure entre le moment où on est habitué à quelque chose et le moment où vous allez passer à autre chose. Le sevrage, c'est une douleur pour la maman, et une douleur pour l'enfant. Parce que la maman, elle sent encore les montées de lait, mais elle ne peut plus continuer à donner, parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait cette coupure, cette séparation. Et l'enfant voudrait continuer à avoir tous les produits bénéfiques pour sa santé. Hein, d'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui dit aussi « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. » Parce que c'est la croissance. Et les moments, les premiers moments de la vie, ce sont les moments où on prend le plus de vitamines, de force. Mais quand il arrive le sevrage, il faut qu'il y ait cette séparation. On ne peut pas continuer à dépendre de quelqu'un. On ne peut pas toujours dépendre de la personne qui nous a mis au monde. En tant que chrétien, il y a un sevrage qui se fait. Et le sevrage, c'est la coupure entre le monde que nous vivions avant d'avoir donné son cœur au Seigneur et le moment où nous dépendons du Seigneur. Donc il y a toujours une dépendance, mais ce n'est plus la même. Comme l'enfant qui n'a plus le lait maternel commence à avoir du lait en poudre peut-être et puis commence à avoir d'autres choses comme des petits yogourts ou quelque chose comme ça, jusqu'au moment où on va commencer à lui donner de la viande. Moi, je me rappelle, avec mes deux enfants, je l'ai fait, j'allais dans une boucherie Chevaline à Liège, hein, je ne vais pas faire de publicité, mais c'était chez Didine, je crois que ça n'existe plus, et quand le monsieur me voyait arriver, il disait, ah oui, il vous faut autant de petites boulettes de viande, et il pesait les petites boulettes pour mon fils d'abord, et puis pour ma fille par après. Donc, il y avait cette nourriture matérielle, plus substantielle, hein, d'autres vitamines. Et nous, en tant que chrétiens, on a des vitamines à aller chercher dans la parole de Dieu, dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec les autres. Nous devons apprendre à grandir. Nous devons apprendre à être sevrés de certaines choses pour avancer avec le Seigneur. David termine son chant, puisque c'est un chant. J'ai essayé sur YouTube d'avoir un chant qui parlait du psaume 131. Je n'en ai trouvé qu'un, mais il n'était pas, c'était pas tellement mélodieux et je ne l'ai pas retenu. Hein. Mais il termine en disant « Israël, mets ton espoir en l'Éternel ». Mets ton espoir en l'Éternel, Israël. Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, et je ne me lasse pas de répéter certaines choses. Hein. Quand dans la Bible, il y a le mot Israël, vous pouvez mettre votre prénom. Et le psaume se terminerait comme ça, comme il termine dans le psaume 130. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Salvator, mets ton espoir en l'Éternel. Mets ton espoir, Salvator, et ne compte sur rien d'autre que cela. Le Seigneur éternel est celui qu'il te faut, est celui qui te dirige, est celui qui montre ton cœur, ton regard, ton âme, afin que toute ta vie soit conforme à ce que Dieu veut. Et il termine en disant, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant, si c'est maintenant que vous voulez prendre un nouveau départ, ou à jamais, ça veut dire continuellement au siècle des siècles, en sachant que le Seigneur va revenir. Il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit chant, c'est un des derniers chants de Kenji Girac, hein. Je crois que je le dis bien, c'est Kenji Girac. Voilà. Merci. Il a mis sur un CD « Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, etc. » Et je l'ai écouté avec intérêt. Je me suis dit « Oh, c'est un chanteur que je ne connais pas beaucoup. Hein. Bon, on ne peut pas connaître tout. » Et puis, à la fin du chant, je me dis « Mais il a raté quelque chose. » Il a juste raté la partie où il est écrit que Jésus va revenir. Jésus s'apprête pour quoi gémir. Ouais, levons nos têtes, il va venir. Je ne veux pas critiquer le chanteur parce que chacun voit ses intérêts, hein. Mais je crois qu'en tant que chrétien, il semblerait qu'il fait partie d'une assemblée évangélique. C'est ce que j'ai lu. Hein. Pourquoi ne pas mettre dans son chant que Jésus va revenir? Levons nos têtes. Et c'est un conseil que je vous donne ce matin. Levons nos têtes. Jésus va revenir. Et avec tous les saints, nous disons Maranatha, reviens Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, ce matin, tu as été celui qui voulait nous montrer quelque chose et je voudrais te remercier parce que tu veux que nous apprenions à avoir un cœur qui te ressemble, un cœur qui utilise la miséricorde, qui pratique l'amour avec son prochain. Merci Seigneur, parce que toi tu avais un regard d'humilité, un regard d'amour, un regard bienveillant, et ta parole dit que tu avais des entrailles de miséricorde. Aide-nous afin que nous puissions nous approcher de toi jour après jour, et que nous puissions dépendre de toi. Merci Seigneur, parce que à qui d'autre irions-nous? Toi seul tu as les paroles de la vie éternelle, et comme il a été dit, que nous puissions lever nos yeux vers toi, que nous relevions la tête parce que tu vas revenir. Amen.